si vous venez de nous prendre en marche à l'écoute des Radio Chandeliers, sachez qu'il est l'heure de l'écoute de la parole de Dieu dans Parole révélée en compagnie du révérend docteur Dion Yaye Robert. Le thème du jour s'intitule « Les quatre maillots du salut ». Très bonne écoute à tous.
Soyez bénis au nom de Jésus. Les maillons pour le salut complet. Les maillons, quand on dit maillon, c'est... Vous voyez par exemple une chaîne. Une chaîne est faite de maillons. C'est-à-dire les différents colliers qu'on relie pour donner le nom de chaîne. C'est une chaîne de maillons. Et pour que ton salut soit complet, il y a des éléments qu'il faut absolument... Tant que ces éléments ne sont pas, ça veut dire que tu n'es pas encore sauvé. Et tu ne dois pas te tromper par des faux raisonnements. Il faut absolument cela. C'est comme l'organigramme du salut que Jésus a tracé. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est un organigramme pour le salut. Ce n'est pas le maillon, évidemment, mais c'est un organigramme. C'est-à-dire, c'est l'organisation pratique, le cheminement pratique. Ça, c'est je suis le chemin. C'est le chemin. Voilà, choisir le chemin ne veut pas dire qu'on est arrivé. Voilà, vous allez, par exemple, à Boaké, vous choisissez l'autoroute, par exemple, ou vous choisissez la route de la Bengourou. De toute façon, tu vas arriver à Boaké. Et choisir le chemin ne veut pas dire qu'on est arrivé. Dire j'ai choisi Jésus ne veut pas dire que tu es arrivé. Voilà, souvent on se trompe. Ah, moi, j'ai Jésus, c'est fini. Et on fait tout ce qui bon nous semble. Et on pêche, on dit, oh, de toute façon, j'ai la grâce. C'est pas vrai. Si quelqu'un te dit ça, c'est faux. C'est un message du diable, ça. Choisir le chemin ne veut pas dire qu'on est arrivé. Je suis le chemin, mais je suis la vérité. Donc, le chemin enseigne la vérité. Alors, pour aller à Boaké, le chemin enseigne la vérité. Et quand c'est l'autoroute ou même une route normale, il y a des leçons que la route enseigne. N'est-ce pas? Alors pour ceux qui sont des chauffeurs, qui transportent les voyageurs vers leur destination, ils doivent respecter les consignes, les vérités, les lois, les règles. Sans ça, on n'arrivera pas. Vous savez, avant d'aller à Boaké, vous choisissez l'autoroute, hein, il y a des traits qui sont tracés, il y a des panneaux, etc. Il y a stop, il y a des endroits où on dit virage dangereux. Et on trace. Pour ceux qui ne savent pas lire, il y a les dessins. Les dessins symbolisent la loi. Ceux qui ne savent pas lire. Ceux qui savent lire, ils lisent. Ils lisent. Attention, 40 à l'heure. Tout ça, c'est la vérité que la route enseigne. Pour arriver à Boaké, il faut obéir à toutes les consignes que la route t'enseigne. À toutes les consignes. Et Jésus dit, pour arriver à Dieu, pour avoir la vie, c'est vrai, il est le chemin, tu l'as choisi, mais ce n'est pas fini. Il faut accepter toutes les vérités qu'il prêche, qu'il t'enseigne. Je suis le chemin, c'est bien, mais je suis la vérité. Alors, nul ne peut, là maintenant, le sommet, c'est pour arriver à Dieu, donc il faut ça, il faut le chemin. Mais plus que ça, il faut accepter les vérités que le chemin enseigne. Sinon, tu n'arriveras jamais au Père. Vous voyez, il y a des conditions pratiques. Voilà. La vie que nous avons, c'est la vie de Dieu. Pour avoir une réconciliation avec Dieu, il y a des principes. Et donc, nous parlons ce matin des maillons. Lorsque nous évangélisons, que nous prêchons l'évangile à quelqu'un pour son salut, il faut soi-même avoir en esprit ces maillons-là. Il y en a quatre. Il y a quatre maillons. Nous allons voir cela. Mais d'abord, nous allons voir les bénéfices d'être sauvé. Qu'est-ce que nous retrouvons? On parle du salut. Pourquoi il faut évangéliser? Pourquoi il faut amener quelqu'un qui est perdu au salut? Dans le mot salut, c'est sauver. Le salut, c'est être sauvé. Et le salut que Christ nous a apporté, c'est le salut éternel. C'est-à-dire être exempté de la condamnation éternelle. Être exempté de la mort. Être épargné de la mort éternelle. Parce que comme vous le savez, il y a deux morts. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La mort physique, c'est pour le corps physique. La mort spirituelle, qui est la mort éternelle, c'est pour l'homme intérieur, qui est l'esprit. Tu es un esprit, je suis un esprit, mais nous sommes dans un corps et le corps nous manifeste. Quand nous sortons de ce corps, le corps ne peut plus manifester quelque chose qui n'existe pas. Et c'est un cadavre qu'on s'en va enterrer. Donc vous voyez, le salut concerne l'homme entier. Corps, âme, esprit. C'est vrai, ce corps physique et la terre va être détruit, mais de là sortira un corps glorieux, qui est un corps spirituel, un corps que le mur ne peut plus retenir, un corps qui est au-delà du temps. Lorsque tu vas ressusciter, peut-être que le jour où tu vas partir au ciel, tu seras dans une maison enfermée, à double clé. Mais la porte sera toujours fermée, mais toi tu sortiras de là parce que tu es un être spirituel que les choses physiques ne peuvent plus retenir. Voilà ce que nous sommes en réalité. Et le salut concerne cela. Tu auras un besoin. Le Seigneur t'apportera le salut en te l'accordant. C'est un salut aussi. Tu manques d'argent, tu demandes au Seigneur et il t'accorde l'argent. C'est un salut qu'il t'apporte. Quand je dis bonjour apôtre, dans le bonjour là, dans ma bénédiction, tout est dedans. Nourriture, santé, sécurité, tout, tout est dedans. Quand tu bénis là, tout est dedans. L'enveloppe que Dieu t'a donnée là, c'est une enveloppe pleine entièrement. Amen. Est-ce que tu crois cela? Amen. Donc, nous allons lire quelques passages pour montrer le privilège que nous avons retrouvé dans le salut. Le privilège que nos ancêtres ont fait perdre à toute la procréation, mais que Dieu lui-même prend la forme humaine pour venir restaurer. Nous allons lire Galates 3, 29.
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse.
Amen. Vous êtes qui? Héritier. Quand on dit qu'on est héritier de quelqu'un, ça veut dire que tu possèdes tout ce qu'il possède, n'est-ce pas? Hein?
Oui.
Est-ce que nous sommes héritiers de Dieu? Parce que nous sommes des fils et des filles. Est-ce qu'un père laisse son héritage à ses enfants? Ou bien, est-ce que ton père est riche? Est-ce que Dieu est riche? Est-ce qu'il a tout? Tout appartient. Tout nous appartient. Tout. Il a fait un beau monde. Voilà la carte. Tout ça là, c'est pour toi. Tu vas dire, ben, si c'est pour moi, pourquoi je ne peux pas aller facilement au Gabon? Et on me demande les papiers. Mais c'est normal, il faut être identifié. Ce n'est pas interdit que tu ailles au Gabon. Arrivé là, si tu veux être Gabonais, on va dire, ok, c'est pour nous tous. Tu es de l'humanité, Dieu nous a donné la terre. Seulement, il demande qu'on gère. Dieu est un gérant. Ah, Dieu est un grand gérant. Il a créé toutes choses, il a confié la gestion à Adam. Et la Bible dit qu'il a fait venir vers Adam même les animaux pour voir comment Adam les appellerait. Donc c'est toute une charge, c'est toute une responsabilité. La terre nous appartient, nous tous, c'est pour nous. Toute la terre, c'est pour toi. Les hippopotames, là, tu es propriétaire de ça. Les calaos, là, tu en es propriétaire. Les vers de terre, tu en es propriétaire. Tout ce que Dieu a créé là, nous en sommes propriétaires. Parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Est-ce que tu es héritier de Dieu? Tu vois maintenant l'immensité des biens qui t'appartiennent? Ah bon, comme Satan est venu sur la terre, il a touché ton héritage. Il a sali ton héritage. Et dans la bonté de Dieu, Dieu dit, je vais détruire tout ça. Je fais de nouveaux cieux, une nouvelle terre pour vous donner encore. Alléluia. Vous voyez que c'est merveilleux. Il a touché notre corps. Dieu dit, je vais détruire ce corps. vous allez ressusciter glorieux dans un corps glorieux. C'est la nouvelle naissance. Voyez la bonté de Dieu. Tout ce que nous avons perdu, nous retrouvons cela en Dieu. Il s'est manifesté pour nous redonner cela. Pasteur, tu nous lis Éphésiens 1, 11 là, s'il te plaît.
En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté.
Amen. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il se consulte et il fait. Il se consulte et il fait. Et nous sommes héritiers en lui. C'est une grâce que tu rentres dans la possession du Dieu merveilleux. Alléluia. Vous savez, dans le passé, en France par exemple, ils ont aboli la dot. Voilà l'histoire, hein? Ils ont aboli la dot. Parce que dans leur coutume, sont les Gaulois, dans leur coutume, c'est la femme qui dote l'homme. Voilà, c'est leur coutume. C'est la femme qui dote l'homme. La dot, c'est divin. C'est un gage qui vient de Dieu. Et les prolétaires, les enfants des prolétaires, ceux que les Victor Hugo a appelés prolétaires, c'est-à-dire les pauvres, les misérables, la basse classe, faisaient tout pour séduire les filles des bourgeois, les grands bourgeois, et qui sont des grands Européens, les grands Français, les bourgeois. Ils faisaient des forts, ils entourent, les forts, ils sont dedans. C'est cette tradition-là qui est dans les pays francophones. Quand on fait une belle villa, on entoure d'un grand mur comme si on était prisonnier. Quand vous allez en Amérique, vous allez voir que tout est libre, vraiment. Il n'y a pas assez de clôture, tout est verdure et vous vous sentez vraiment à l'aise. Vous êtes dans une maison, quelle que soit la nature, une case, mais l'environnement est tellement bien. Ce n'est pas clôturé comme on voit en Europe, avec les forts, avec des gros murs, où chacun est dans son coin. Si tu meurs là-bas, c'est quand tu commences à pourrir qu'on sait qu'il est mort. Il n'y a pas de communication. Voilà, ça c'est, ils ont hérité cela des bourgeois. C'est ça. Donc ces bourgeois-là, quand ils ont vu que les fils des prolétaires séduisaient leurs enfants, une fois qu'ils ont séduit leurs enfants, alors ils viennent doter et ils rentraient dans le bien des bourgeois. Donc ils faisaient tout pour rentrer dans le bien des bourgeois, en séduisant la fille. Or, le cœur humain, c'est sensible, c'est facile de séduire une femme. Il suffit de connecter trois mensonges et puis tout de suite, elle est KO. Voilà, les femmes, c'est comme ça, hein? Si tu veux la voir, il faut mentir un peu. Voilà. Et là, les pauvres, là, ils faisaient tout pour bien mentir. Et les filles, là, étaient séduites. Et ils allaient maintenant doter. Et une fois dotés, ils devenaient gendres du bourgeois. Donc, ils devenaient héritiers. Quand ils ont vu que ça a commencé à prendre l'ampleur, c'est les bourgeois, c'est eux qui gouvernent. Ils ont voté une loi et ils ont supprimé la dot. Et ils ont remplacé la dot par la bague. Puisque la plupart sont membres des loges, comme en Égypte. La civilisation égyptienne a marqué l'Occident. Donc la bague, c'est loge. Ils sont dans les loges. Il y a toutes sortes de loges. Loges franc-maçonniques, l'autre ceci. Les templiers, etc., etc. Ils ont leur religion. Donc, comme c'est la bague, ceux qui sont là-bas, ils ont dit, bon, ce que nous faisons, il faut que nos enfants fassent. Et c'est comme ça, la dot étant abolie, on a remplacé par la bague. On appelle maintenant la bague d'alliance. Ça n'a rien d'alliance. C'est des choses qui viennent des loges. Joseph, que vous lisez dans la Bible, Joseph, le fils de Jacob, quand il a été initié en Égypte, on a mis l'anneau à son doigt pour qu'il rentre dans le cercle avant d'être premier ministre. C'est comme ça le principe. Et donc, tous ceux qui doivent se marier là, il faut qu'ils passent par cette initiation pour qu'on sache qui est qui. Mais en même temps, ils ont introduit ce qu'on appelle l'enquête. Parce que avant le mariage, c'est pourquoi on fait le plaquage. pour faire l'enquête, pour savoir celui qui se marie là, qui est son père, qui est sa mère, il est de quelle origine, tant. Et c'est ce qui a fait qu'il y a problème d'enquête avant le mariage maintenant. Et maintenant, la dot n'est plus là, c'est l'alliance, l'alliance entre guillemets. Et puis, voilà, il faut l'enquête. Et quand on fait l'enquête, qu'on sait que tu es fils de prolétaire, alors on refuse. C'était un moyen de freiner. Mais finalement, c'est devenu une loi civile. Ça est dans le code civil. La dot, ils l'ont supprimée et ils l'ont remplacée par l'alliance. Donc, vous voyez qu'il y a des principes que même toutes les tribus, chacun a ses principes. Et nous, qui sommes du royaume de Dieu, pour être héritier, il y a des principes. Pour rentrer dans les biens de Dieu, il y a des principes. Le principe, là, c'est l'ensemble de ce que ça comporte, qu'on dit le salut. Nous avons perdu la vie éternelle. Nous avons perdu les intérêts matériels. Dieu prépare une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et nous, nous allons habiter cette nouvelle terre. Mais les cieux seront les cieux. Mais il n'y aura plus de blocage entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, il y a un blocage. Tu ne peux plus aller au ciel, tu es ton père. Tu ne peux plus aller là-bas. La chair est d'abord un voile, parce que la chair a péché. Et puis, il y a un frein. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Christ est venu maintenant nous réconcilier. Mais pour réconcilier et recevoir les biens de Dieu, il y a des principes. Donc, j'ai pris l'exemple des Français par rapport au mariage, pour que vous puissiez comprendre certaines choses. On ne rentre pas dans les biens de quelqu'un comme ça. S'il n'y a pas des normes, en même temps, ça vous a permis de comprendre. Souvent, quand on veut faire marier les jeunes gens, ils font palabre sur bague. La bague, ça vient des loges. Et si je n'ai pas porté bague, je ne suis pas marié. Non, c'est le Saint-Esprit qui t'a scellé à ta sœur. C'est ça, c'est la parole de Dieu là, qui t'a scellé à ta sœur, qui t'a scellé à ton frère. C'est ce que Dieu regarde, ton obéissance. C'est ça. Donc vous voyez, on ne peut pas rentrer dans les biens de quelqu'un sans des clauses. Tu ne peux pas rentrer dans l'éternité, dans les biens de Dieu, s'il n'y a pas les clauses. C'est de ces clauses que je vais parler, pour qu'on comprenne pourquoi il faut évangéliser. Pourquoi, lorsqu'on est sauvé, qu'il faut demeurer dans le Seigneur. Regarde Romains 8, 14 à 17. Est-ce que vous suivez? Vous êtes fâché? Si tu es fâché, tu ne peux rien me faire de toute façon.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.
Amen.
Amen.
Christ, c'est l'Esprit, c'est Dieu. Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Voilà. Le gage de notre alliance, c'est ça. De notre salut, c'est ça. C'est que constamment, Dieu dit à ton cœur que tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Ce n'est pas les choses apparentes là, forcément, qui font de toi fils de Dieu. C'est ta relation avec Dieu. Et Dieu qui est en toi rend témoignage continuellement. Et c'est par cet esprit que tu appelles Dieu Père. Père, c'est notre Père. Dieu est notre Père. Et il n'est pas notre camarade. Et donc, pour rentrer dans les bénéfices de ce Père, il y a des conditions. Ce sont ces conditions réunies. Lorsque tu remplis ces conditions, on dit, tu es sauvé. Parce que souvent on dit, je suis sauvé, il me dit, comment tu es sauvé? Et il ne sait même pas expliquer comment il est sauvé. C'est comme certains qui disent à quelqu'un, il faut croire. Et il dit, mais comment il avait croire? Il dit, crois seulement. Mais comment on croit là? Il dit, crois. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il dit, mais comment je vais croire? Mais je dis, crois. Voilà comment d'autres évangélistes. Tu es incrédule, tu ne crois pas. Il dit, mais comment je vais croire? Croire là-même, c'est quoi? Il dit, crois. Accepte ces paroles. Je te dis de m'expliquer comment on croit. Et dis-moi, je te dis de croire seulement. Ça ne suffit pas, il faut lui expliquer. Qu'est-ce que croire? La foi, c'est quoi? C'est l'obéissance. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont perdu? C'est la foi. Dans le jardin d'Éden, ils ont cessé d'obéir. Celui qui dit qu'il croit et qui n'obéit pas, il ment. Il se trompe. On explique cela aux gens. Et puis c'est facile pour qu'ils vivent la vie chrétienne normale. Il vient à l'église, il ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. C'est qu'il ne croit pas. C'est tout. On te dit ce qui est écrit là. Tu ne veux pas. C'est que tu ne crois pas. Donc ne te trompe pas. C'est quand tu crois, c'est-à-dire tu obéis, on dit que tu crois et tu as la vie éternelle. Mais si tu ne veux pas obéir, tu dis que tu as ta manière de croire. Il n'y a pas deux façons de croire. Il y a une seule façon d'obéir. C'est tout. C'est des paroles sublimes. 1 Corinthiens 11, 7.
L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme.
Écoutez, voilà encore une autre vérité fondamentale. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Pourquoi? Qui Dieu a créé premièrement? C'est l'homme masculin, n'est-ce pas? On parle ici de l'homme masculin, pas l'homme en général. La femme aussi est un être humain, c'est un homme. Mais un homme féminin. Mais lequel de ces deux-là a été créé d'abord? C'est l'homme masculin, n'est-ce pas? Il est qui? Dieu s'est regardé pour le faire, c'est pas ça? Il est l'image de Dieu. Et il est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il est la gloire de Dieu. L'image et la gloire de Dieu. Est-ce qu'on réalise un peu ce que nous sommes? Donc, laissons nos sœurs d'abord. Nous, là. C'est, on dit garçon. Garçon, là. Quand on dit garçon, bon. Nous, là, est-ce qu'on sait ce qu'on est? Est-ce qu'il y a des hommes masculins dans cette salle? Hein? Est-ce que vous êtes là? Des autorités, là. Est-ce que vous êtes là? Mes filles, est-ce que vous êtes là? Vous voyez, ça change, hein? Quand les autorités parlent, c'est avec la force. Hein? Tous les hommes, dites Amen.
Amen.
Et toutes les sœurs, dites Amen.
Amen.
Ouais, y a la différence. Il y a la voix d'autorité et il y a la voix d'amour, de soumission. Voilà, la voix de soumission est là. Et ce que nous sommes là, souvent on ignore. Dieu dit que vous êtes sa gloire. Je suis sa gloire. Nous sommes la gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Dieu. Alléluia.
Amen.
Quand la gloire de Dieu fait des mauvaises choses là, est-ce que c'est bien? On voit la gloire de Dieu dans un bar assis à terre là-bas. Il a quitté l'église, il a laissé tout ça. Il a mis 100 manches. C'est 100 manches là, on dit 100 manches. Il met 100 manches avec le gros ventre là, il va. Il s'assoit là, et puis il y a Bangui Drum là. Il est en train de boire, il est couf. Voilà la gloire de Dieu qui est couf. Et il raconte des bobards. Gloire de Dieu qui est comme ça. Vous ne voyez pas? Vous savez, il faut qu'on s'identifie. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. C'est pourquoi on n'a pas de voile sur la tête. On n'a pas de voile. Parce que la gloire de Dieu ne doit pas être couverte. La gloire de Dieu doit être vue. Il faut que le monde entier voit la gloire de Dieu. Maintenant, il dit, la femme est qui?
La gloire de l'homme.
La femme est la gloire de l'homme. Mes filles, vous êtes gloire de qui? Vous êtes notre gloire. C'est pourquoi quand vous êtes à côté de nous, on est content. Vous êtes notre gloire. Et c'est pourquoi, comme nous sommes gloire de Dieu, notre tête ne doit pas être couverte. Il faut que la gloire soit vue. Tandis que vous êtes notre gloire, il faut que notre gloire soit couverte pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans le monde entier, dans l'humanité entière, c'est comme ça, c'est prévu, et c'est comme ça, ça se manifeste dans l'humanité entière. Qui qu'on soit, de quelque tribu qu'on soit, de quelque ethnie qu'on soit, de quelque race qu'on soit. Il y a trois races, blanc, jaune et brun. On n'est pas noir, on est brun. Voilà, ce sont nos frères blancs là qui nous ont appelés noirs, sinon on est brun. Voilà, on est brûlé, on est chocolat. Voilà. On dit noir, noir, mais on n'est pas noir. On est brun. Shuam en hébreu veut dire brûlé. On n'est pas noir. Mais si vous nous appelez noir, on est beau quand même. Bon, bref, dans l'humanité entière, chez les bruns, chez les jaunes, chez les blancs, et leurs enfants métis, rouges et métis, dans l'humanité là, la partie féminine de l'homme et la gloire de l'homme, elle doit être couverte. C'est la chute qui fait que les femmes ne veulent pas couvrir leur tête. Quand une femme ne coupe pas sa tête, c'est une chute. Et c'est un scandale dans le royaume de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis. Si les femmes, vous êtes fâchées contre moi, je suis votre fils. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est la vérité. Si tu ne couvres pas ta tête, tu as chuté. Et dans le royaume de Dieu, là, ta gloire va disparaître. C'est écrit dans Ésaïe. Dieu rendra ta tête chauve parce que tu as refusé que la gloire lui soit rendue. Ta tête sera chauve, tu seras un ange au ciel, mais à tête chauve, éternellement. C'est ce qui est écrit. Ton salut là, ça dépend de ce que tu es en train de faire. Couvre ta tête pendant que tu es en vie. Glorifie Dieu. Donne gloire à l'homme. Accepte que l'homme soit la gloire de Dieu. C'est quoi Dieu dit aussi que au ciel, il y a les efféminés qui ne vont pas hériter le ciel. Les efféminés. Écoutez-moi bien. Un efféminé, c'est qui? Un homme qui est comme une femme. Qu'est-ce que doit différencier mon fils qui est là de ma fille qui est là? Dieu est l'ancien des jours. Il a une moustache, il a une barbe. C'est la marque de son autorité. Vous voyez? Alors, souvent on dit aux femmes, portez le voile, portez le voile. Et la femme dit, mais toi-même là, où est ton autorité? Toi et moi, on a la même chose. Parce que là aussi, c'est la chute de l'homme. C'est la chute qui fait ça. L'homme veut plaire. C'est quoi aujourd'hui là? Bon, ils sont arrivés à se marier entre eux. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Les hommes, vous êtes fâchés? De toute façon, c'est la vérité. C'est écrit. Mais écoutez, mes filles, vous êtes notre gloire. C'est pourquoi vous avez les longs cheveux plus que nous. Donc, la femme est la gloire de l'homme et l'homme est la gloire de Dieu. C'est cette gloire-là qu'on a perdue et le salut concerne ça aussi. Le péché est venu annuler tout ça, tous les biens que Dieu nous a disposés. Mais par Christ, il restaure toutes choses. Alléluia. Par Christ, ta vie est restaurée. Par Christ, ton autorité est restaurée. Par Christ, ton statut est connu. Tu es sauvé. Tu es prince. Ma soeur, tu es princesse. Tu es héritier, mon frère. Tu es héritière, ma soeur. En Christ Jésus, manifestation visible du Dieu invisible. C'est ça le salut. Maintenant, pour atteindre ce salut, il faut voir d'abord que tous ont péché, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas les femmes seulement qui ont péché, ni les hommes seulement, tous ont péché. Il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit là?
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Amen. Amen. Nous sommes restaurés par quel moyen? Par quel moyen? Rédemption. C'est bien. Lis Jérémie 5, 25.
C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu, car ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens.
Voilà, tous les biens que Dieu avait disposés, nos péchés font qu'on les a perdus. C'est en Christ qu'on les retrouve. Voilà la nécessité d'évangéliser les hommes pour qu'ils ne meurent pas et qu'ils ne soient pas pauvres éternellement. Qu'il ne soit pas privé de tout cela éternellement. Si nous voyons quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qu'on ne lui parle pas, on devient méchant. C'est méchant. De savoir que l'humanité a tout perdu, qu'en Christ il peut retrouver, et puis on ne lui dit pas, accepte Christ. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Maintenant, il est dit tout à l'heure que c'est par la rédemption. Donc voici les maillons, je vais vous citer les maillons. Si tu veux savoir que tu es vraiment sauvé, il y a quatre choses. Premièrement, la rédemption. La rédemption. Parce que vous savez, quand l'homme a péché, qu'il avait tout perdu, Dieu l'a chassé du jardin de délices. Éden veut dire délice. Lieu de délice, où on avait tout. Délice, ça veut dire qu'on jouit de tout. Ils jouissaient de la communion de Dieu. Ils jouissaient de tout. Et maintenant, il a perdu les délices. Il a perdu les délices. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Provisoirement. Évidemment, il n'avait plus le droit de paraître devant Dieu. Il n'avait plus le droit. Il était mort spirituellement. C'est-à-dire une séparation totale d'avec Dieu. C'est pourquoi lui-même s'est éloigné pour se cacher. Et Dieu a dit, où es-tu Adam? Dieu le voyait, mais Dieu l'amène à confesser. Où es-tu Adam? Il dit, je suis là. J'ai peur. Mais la peur rentre déjà en toi, pourquoi? Ah, tu nous as dit de ne pas toucher à cette table. Et puis finalement, il commence à accuser. La femme que tu as mise à côté de moi, elle m'a trompé. Et la femme dit, non, c'est le serpent qui m'a trompé. Et le serpent dit, c'est celui que tu as chassé là-bas qui est venu me posséder. Bon, personne ne se confesse, on ne fait qu'accuser. Personne ne s'est confessé. Adam ne s'est pas confessé. Ève ne s'est pas confessé. Le serpent ne s'est pas confessé. Donc chacun a reçu sa malédiction. S'il n'y a pas de confession, il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas de miséricorde. C'est quoi le résultat? C'est qu'ils ont été chassés du délice. Confesse tes péchés pour que tu reçoives miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Donc ne gardons jamais le péché en nous. Si tu as péché, confesse. Déclare cela. Dieu, il est au courant, il sait. En déclarant, c'est le pouvoir que Dieu t'a donné de le faire. Utilise le pouvoir pour dénoncer le mal qui est en toi. C'est une porte que tu ouvres ainsi au salut de ton âme. Parce qu'il y en a qui ne se confessent jamais. Il dit, oh, de toute façon, je suis sauvé par grâce. Oh, Jésus est mort, le sang de Christ nous purifie, oh, c'est bon. Mais qu'est-ce que le sang purifie, pourquoi? Tu as fait quoi? Il faut confesser. Il faut déclarer. Il n'y a pas un être humain sur la terre qui soit saint. C'est Christ qui nous a rendus saints parce que nous obéissons maintenant à sa parole. Sinon, tous nous sommes des pécheurs. Donc ne dis pas, je vais dire mon péché à Apôtre Goua. Ça fait honte. Qu'est-ce qui fait honte? Tu es nu. Tu es un malade qui s'ignore. Nous sommes des malades. Dis à ton frère, tu es un vrai malade qui s'ignore. Nous sommes des malades. L'église, ce n'est pas fait pour les bien portants, c'est pour les malades. Moi, j'étais vraiment malade. Tu étais malade. Et il y a toutes sortes de maladies. L'adultère, c'est une grave maladie. Le mensonge, c'est une maladie. On parle de sida, tout ça. Mais ça, c'est pour le corps physique. Ça, c'est pour la terre ici, quelques années seulement. Mais la maladie de l'âme, là, elle est éternelle. Tu es malade, tu as besoin de guérison. Dis à ton frère, tu es malade et tu as besoin de guérison. Quand tu mens, là, est-ce que tu n'es pas malade? Quand tu voles, tu n'es pas malade? Quand tu trompes, est-ce que tu n'es pas malade? Quand tu fumes, tu es malade. Tu es vraiment malade. Mais il y a des malades qui s'ignorent. Hein? Ils s'ignorent. Tu as tué le mouton. Tu l'as préparé, tu l'as mangé. Et tu prends sa corne et tu t'accroupis devant. Tu es vraiment malade. Tu es vraiment malade. Tu prends du fer. Et tu mets du charbon dessus et tu mets au doigt, tu dis c'est bague anti-accident, c'est du fer. Tu es vraiment malade. Il faut le salut, il faut que tu sois guéri. La guérison fait partie du salut. Il y a trop de malades avec qui nous vivons, qui s'ignorent. Celui qui n'a pas le Christ est malade. Il faut qu'il soit guéri, c'est le salut. Est-ce qu'on est d'accord? Bon, maintenant, il faut donc la rédemption. Qu'est-ce que Dieu a fait? D'abord, Dieu a tué un animal pour que de manière provisoire, en tuant l'animal chaque fois, que de manière provisoire, l'homme paraisse devant lui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. La solution à la maladie de l'âme, c'est la mort. La mort physique, là, c'est une bonne chose. La mort physique met fin aux tracasseries de la chair. Mais la mort éternelle, là, c'est des tracasseries éternelles. Donc, il faut en être guéri. Donc, comme Dieu dit, sa parole est sa parole. Il est sa parole. Il dit, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. C'était dangereux pour nous, pour sa créature. Donc, lui, Dieu, il prend un autre arrêté. Il prend une ordonnance. Et il ordonne le sacrifice sanglant. Le sacrifice des animaux. Il dit, comme vous êtes mon image, vous êtes ma ressemblance. Si vous péchez, vous mourrez. Mais je ne veux pas que vous mouriez. Faites-vous remplacer par un animal. Que l'animal meure à votre place. Comme ça, moi, je vous reçois. Provisoirement. Et ça, c'est pour 6000 ans. C'est pour 6000 ans. Septième millénaire, moi-même, je viendrai prendre la relève pour vous guider. Je serai avec vous. Mais il y a 6000 ans. Un jour égale 1000 ans. 1000 ans égale un jour. Et on a 6 jours pour nous. Et le septième, c'est pour lui. On a 6000 ans pour l'homme, pour l'humanité. Septième millénaire, c'est pour lui. Mais pendant les 6000 ans depuis Adam, qu'est-ce que l'homme doit faire pour paraître devant Dieu provisoirement en attendant qu'il vienne? Il fallait que l'homme se remplace par un animal. C'est pourquoi il a prescrit le sacrifice sanglant des animaux. Il a dit, j'accepte provisoirement le sang d'un animal pour vous épargner de la mort et de la malédiction. Il faut que vous fassiez le sacrifice sanglant. C'est ce qu'on appelle la rédemption. C'est-à-dire, lorsqu'on prend un poulet qui te remplace là, le poulet devient la victime et toi tu es épargné. Au lieu que tu sois victime, c'est le poulet qui prend ta place. Donc, Dieu te récupère, sain et sauf. Et on appelle ça la rédemption. Si tu veux être sauvé, tu passes d'abord par la rédemption. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, regardez un peu, pasteur, tu me lis ce qui se faisait jusqu'à ce que Jésus vienne. Hébreux 9, 22. Écoutez.
Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon.
Et presque tout, d'après la loi de Dieu, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang. Le pardon est obtenu par le sang. Et il est dit dans Hébreux 9, 11 à 14, qu'est-ce qui est dit?
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant.
Amen. Alors, il est dit ici, si le sang des animaux, des vaches, des moutons, là, avait l'efficacité, Dieu acceptait cela pour accorder le pardon, à plus forte raison, le sang de Christ, qui est sans tache ni ride. Dieu s'est incarné pour s'offrir, pour mettre fin au sacrifice sanglant. C'est la rédemption. La rédemption se faisait par le sacrifice sanglant. Mais Christ, Dieu s'est incarné pour mettre fin au sacrifice des animaux. Donc, si quelqu'un veut être sauvé, tu es là dans cette salle, on t'a évangélisé. Si tu ne reconnais pas le sacrifice que Christ a fait là, ça veut dire que tu vas agir comme si quelqu'un n'était pas mort pour toi. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ils prennent à la légère la vie chrétienne. Ils prennent à la légère leur serment qu'ils ont fait au baptême. Ils ont juré. On dit, Christ est mort pour toi. Est-ce que tu veux rester fidèle? Il dit oui. Mais après, il ignore carrément que Christ... Pourquoi on prend la Sainte Cène? C'est pour nous rappeler le sacrifice. Donc, mes bien-aimés, pour être sûr de son salut, il faut être sûr que Christ est mort pour toi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes sûr que Christ est mort pour nous? Que le sang a coulé pour nous? Est-ce que Christ est encore à la croix? Hein? Il a traversé maintenant les cieux, comme on a lu. Il est assis où? Sur le trône éternel, à la droite du Père. Est-ce que vous êtes sûr de cela? Est-ce que tu es sûr que quelqu'un est mort à ta place? Que c'est toi qui devrais mourir? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, écoutez. La rédemption, premier maillon. La repentance, deuxième maillon. Écoutez-moi. Je reviens dans notre tradition, au village. Tous ceux qui viennent autour du patriarche, c'est parce qu'ils reconnaissent que le village est dans le péché. Vrai ou faux? Ou bien, celui qui n'accepte pas le sacrifice, est-ce qu'il aura les bénéfices? Non. Faut que tu acceptes que Christ est mort. Deuxièmement, tu dois te repentir. Faut la repentance. Il y a eu déjà le sacrifice, mais tu viens sous ce sacrifice-là pour dire vraiment, je mérite la mort, mais maintenant, quelqu'un est mort pour moi. J'accepte cela et j'arrête de pécher. C'est ça la repentance. Dieu a pitié de toi. Il peut t'écraser. Tu es une fourmi et puis tu grimpes contre lui. Il peut te détruire, il peut te tuer. Il a tué Ananias et Saphira. Il se grimpait contre sa volonté. Il les a tués un dimanche matin. Est-ce que vous êtes parti au funérail d'Ananias et Saphira? Il y a eu funérail. Il a tué des milliers dans le désert. Il a ouvert la terre, les mains dedans. Terminé. Il a frappé Hérode, qui est pourri sur place. Hérode qui a insulté le peuple de Dieu. Et puis, Dieu l'a frappé. Et il est pourri sur place. Lui, on ne l'a pas enterré pour pourri. C'est sur place, tout le monde l'a vu, pourri. Sur place. Rongé par les vers. Il a frappé Nebuchadnezzar. Orgueilleux. Sur place. Quelqu'un qui était assis comme l'apôtre là sur son trône, il est là, il parle. Et puis tout de suite, Dieu l'a frappé. Dieu lui a enlevé la sagesse. Il est devenu comme un animal. Il a commencé à marcher quatre pattes. Personne n'a dit mot, on l'a laissé, il est rentré en brousse pendant 7 ans. Et Dieu dit, tu vas voir, c'est moi l'Éternel, tu grimpes contre ma volonté. Comme je ne veux pas te tuer, je vais te montrer ma gloire. Il a fait 7 ans en brousse, personne ne lui donnait à manger. Et puis au bout de 7 ans, Dieu lui redonne la sagesse. Et quatre pattes, il vient, il se répand et il vient sur le trône. Et maintenant, il y a des gens maintenant qui se souviennent que, ah, le roi a la barbe, comme ça on va aller raser un peu. Et il redevient Nebuchadnezzar. Il a frappé son fils, qui n'a pas voulu écouter aussi, qui n'a pas pris l'exemple de son père, qui a grimpé contre l'autorité de Dieu. Il a frappé Belshazzar, c'est son fils. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les effets de Sainte-Cène. Ils ont été violés, le temple à Jérusalem, brisés, attaqués Jérusalem, brûlés. Et prend les effets de Sainte-Cène. Et il s'en va et il va boire du vin avec ses concubines. Il a fait une grande fête. Dieu dit, toi, tu n'as rien vu encore. En Babylonie, il n'y a pas d'autre verre. C'est ce qui sort de ma maison là. D'accord, tu vas voir. Dieu a coupé l'électricité, tout est coupé, la lumière. Tout est devenu noir. Une mer est sortie devant tout le monde, avait une grande lumière. Comptez, pesez, divisez. Qui va interpréter ça? C'est Daniel, rempli du Saint-Esprit. Daniel dit, comptez, pesez. Tu as été pesé dans la balance de Dieu, tu as été trouvé léger. Tes jours sont comptés. Divisé, ton royaume sera divisé. Et la même nuit, Belshazzar a été tué. Le grand royaume que son père lui a laissé là a été divisé. Et aujourd'hui, on a le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, et puis l'Irak et les Indes. Tout est divisé jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, on ne grimpe pas. Quand tu grimpes, quand Dieu dit c'est ça que tu ne veux pas, ça veut dire que tu grimpes contre son autorité. Si tu veux recevoir la vie, si tu veux recevoir la bénédiction, le salut, il faut reprendre la pente et descendre. C'est ça qu'on dit repentance. Dans le mot repentance, il y a pente. Reprends la pente. Rédemption, il y a deux mots. Récupérer. Mais il faut te repentir pour bénéficier de la rédemption, pour bénéficier du sacrifice. Repens-toi. Reprends la pente. Reviens à ton niveau. Sois humble. Humilie-toi. Car c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, deuxième maillon. Premier maillon, c'est quoi? Ça suppose quoi? Le sacrifice. N'est-ce pas? Deuxième maillon, la repentance. Ça suppose quoi? L'humilité. Troisième maillon, le pardon. Une fois que tu regardes Christ, il est sacrifié parce que tu es pécheur. Ton ancêtre, ton père, ta mère, tes ancêtres ont péché. Ton village, ton pays, le monde, l'humanité dont tu fais partie a péché, tous ont péché. Tu reconnais tout cela, tu reconnais ton péché. Et tu vois le sacrifice que Dieu a donné. Car l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Le résultat du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est la mort. La solution, c'est la mort. Tu dois mourir. Maintenant, tu dis, j'ai péché. Tu t'humilies. En ce moment-là, Dieu t'accorde le pardon. C'est le troisième maillon. Si tu reconnais le sacrifice, que tu ne te répands pas, c'est inutile. Parce que tout le monde dit, Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. Mais il ne se répand pas. D'autres même fabriquent Jésus crucifié là, ils mettent au cou. Ça ne suffit pas. On va mettre même crucifix là, sur ton tombeau. De l'autre côté là-bas, tu es dans autre situation. Ça ne suffit pas. C'est la repentance. C'est la repentance qui te fait bénéficier du sacrifice. Est-ce que c'est clair? Il faut te repentir. Ne gardons pas le péché en nous. Que le soleil ne se couche pas sur le péché. Repentons-nous immédiatement. Il n'est pas dit que tu es juste. Dieu ne te condamne pas parce que tu es pécheur. Mais il te condamne parce que tu refuses de te repentir. Il ne nous condamne pas parce que nous sommes des pécheurs. Mais il nous condamne parce que nous refusons de nous repentir. Est-ce que c'est clair? Voici mon frère. Je l'aime, il doit m'aimer. Il est l'image de mon père. Moi aussi, je suis l'image de son père, qui est Dieu. Nous deux, nous avons le même père. Nous avons la même mère qui est l'Église. Nous devions nous aimer. Je dois être à son service, il doit être à mon service. Je dois le protéger, il doit me protéger. On a une même âme, même esprit, même cœur. On est enseigné sous la même autorité. Et je viens, je lui arrache son bic et je plante sur son cou. Je mérite moi-même la mort. À partir du moment où je l'ai touché là, Dieu lui donne le pouvoir de me tuer. Dieu lui donne le pouvoir de me tuer. Quand tu as péché contre quelqu'un, ça veut dire que Dieu lui a déjà donné le pouvoir de t'ôter la vie. Parce que tu ne mérites pas la vie. L'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. C'est la loi. La grâce vient quand il y a repentance. Donc Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai, il est ton père spirituel, mais il ne mérite plus la vie. Tue-le. Je te donne le droit. Ça, c'est ma parole. Parce qu'il me tue là. La vie ne s'arrête pas ici. Pour Dieu, la mort, c'est la vie. Hein? Tu fais le malin, il te tue, il te prend là-bas et puis vous réglez là-bas entre vous. Mais tu déranges tout le monde, il va te tuer. Dieu peut te tuer. Ça ne lui dit rien. Voilà, il peut nous tuer. Il peut nous arrêter la vie, il peut enlever le souffle, comme il veut, parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi on doit être humble. On doit demeurer dans le salut qu'il nous a accordé. Maintenant, comme lui a donné le pouvoir de me tuer, et maintenant, sa parole dit dans mon cœur, comme il a dit à Caïn, tu as tué ton frère, tu as tué ton frère, son sang est sur toi, son sang. Il le dit dans mon cœur. Dieu parle au cœur. Il dit, tu as mal fait, tu as mal fait. Va te repentir pour que je t'accepte à nouveau. Et je viens maintenant humblement devant lui. Je dis, bien-aimé, tu es l'image de Dieu, tu es mon frère. Moi aussi, je suis ton frère. Ce qui est entre nous, c'est l'amour, c'est pas la mort. Mais je t'ai donné la mort. Je t'ai touché. J'ai touché l'image de Dieu. J'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi. Et lui maintenant, qui a reçu le pouvoir de me tuer, je vous dis, chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un, cette personne-là, tu lui donnes le pouvoir de te détruire. C'est comme ça Dieu a prévu. Mais la grâce est là par Christ. C'est par Christ le pardon vient, la grâce. Donc, je viens, je m'humilie, je pense au sacrifice qui a été fait. Je me répands et dis, pense que j'ai mal fait, mais quelqu'un est mort pour moi. Tu dois me tuer, mais Christ est déjà mort. Il ne faut pas qu'il meure deux fois. Maintenant, moi-même, tu dois me tuer, mais je te demande que tu m'accordes la grâce. Et lui, maintenant, il dit, comme tu es venu, le mal que tu as fait mérite la mort. Dieu m'a donné le pouvoir, selon les saintes écritures, de te tuer, de t'ôter la vie parce que tu ne mérites pas de vivre. Alors, je t'accorde maintenant le don de vivre. Je t'accorde cela. C'est ce qu'on appelle le pardon. Amen. Tu vis désormais pardon. Moi maintenant, je vis pardon. C'est un don qui m'a fait. C'est gratuit maintenant. Je vis pardon. Le mot pardon, il y a deux mots. C'est pardon que tu vis. Donc, si je vis pardon, c'est un don. Je ne peux plus venir faire le malin sur lui. Mais lui aussi, comme il y a eu un sacrifice, il ne peut plus répéter et mettre l'épée sur ma tête. En 1930, tu m'as blessé. En 68, tu m'as blessé. Ce que tu m'as fait là, vraiment, vraiment. Et je dis, mais tu m'as accordé le don de vie ou bien tu veux me tuer encore? Vous voyez, qui a déjà pardonné quelqu'un? Il faut pardonner. Combien de fois? 70 fois, 7 fois. Qui a déjà subi l'opprobre? Qui a été victime d'injustice ou de... Voilà, est-ce, nous tous, hein? N'est-ce pas? Est-ce que nous avons pardonné? Ou bien on a encore l'épée là. Hier tu as demandé pardon, mais aujourd'hui tu t'es trompé encore. Ouh, je te tue. Non, le pardon, c'est le pardon. Est-ce que nous avons pardonné? Et Dieu dit, si vous ne pardonnez pas, vous aussi vous ne serez pas pardonné. Ce que tu as là, que tu donnes, c'est ce que tu reçois. C'est pourquoi le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pardonne. Et le pasteur m'a pardonné. Maintenant, je vis en harmonie. Quatrième, pour terminer, lève-toi. Une fois pardonné, qu'est-ce qui se fait? C'est la réconciliation. C'est-à-dire, mon acte a mis une division. Maintenant que quelqu'un est venu, il a dit, je ne veux pas que vous mouriez, je meurs à votre place. Réconciliez-vous. Mais, pour la réconciliation, il faut la rédemption. Oui, il y a eu la rédemption. Deuxièmement, il faut la repentance. Il y a eu la repentance. Maintenant, vous avez le don de vivre, alors vous vivez ce qu'on appelle la réconciliation. Vous êtes unis à nouveau. Alléluia. Amen. Donc, voyez, il n'y aura pas de véritable réconciliation entre toi et ton frère s'il n'y a pas de véritable repentance. On ne peut pas tresser les cheveux sans tuer le pou. Ou bien vous n'avez pas compris? On ne peut pas tresser les cheveux. Une femme là ne peut pas tresser ses cheveux là. Si elle laisse les poux dedans là, qu'est-ce que ça va faire? À force de gratter, Avant le soir, les cheveux seront défaits. Et chaque fois, il faut refaire les cheveux. Oh, les gros poux là sont dedans. Il faut tuer le poux. La repentance là, c'est le poux qu'il faut tuer. Amen. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, ou tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut la repentance. Une fois que la repentance est faite, il faut le pardon. Et le pardon est définitif. Et avec ça, il y a la réconciliation. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
C'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle le salut. Est-ce que tu es sauvé? Qui est sauvé dans cette salle? Alors, si tu es sauvé, c'est que tu as considéré premièrement quoi? La rédemption, qui est le sacrifice. Ça suppose quoi? Le sacrifice. Avant, c'était les animaux. Maintenant, c'est qui? Christ est mort. Une fois pour toutes, c'est fini. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut? La repentance. Est-ce que nous nous sommes repentis? Troisièmement, il faut le pardon. Est-ce que Dieu nous a pardonné? Donc, ne t'accuse plus. Tu vas prier, le diable dit, tu es mauvais. Tu vois, l'adultère que tu as fait à Koko Aboaké en 1948, là. Dieu, il est au courant encore. Dis-lui, arrière de moi, Satan. Il y a eu un sacrifice. Je me suis repenti, j'ai reçu le pardon. Et je suis maintenant réconcilié avec Dieu. Est-ce que nous sommes réconciliés avec Dieu?
Amen.
C'est pour cela que j'ai invité nos frères qui ont été invités pour qu'ils soient réconciliés avant qu'on prêche ce message. Tous dans cette salle, il n'y a pas quelqu'un qui n'ait pas été réconcilié avec Dieu.
Radio Chandelier. Radio Chandelier, la voix qui proclame la vie de lumière sur le 99.8.
Voilà, on se retrouve à la fin de cet enseignement donné par Dr Dion Yeye et Robert sur les quatre maillons du salut. J'espère que vous avez beaucoup appris sur le salut. Amis auditeurs, tout ce qu'on peut dire au thème d'un tel message, c'est de vous encourager à la pratique de la parole de Dieu pour votre bien-être spirituel. Au reste, si vous désirez rencontrer un serviteur de Dieu pour un suivi spirituel, faites-le 07 24 68 07. Et si vous avez d'autres préoccupations concernant nos différentes émissions, contactez-nous au 07 65 00 41 08 62 56 29. Et puis notre mail info@radiochandelier.net. Que Dieu vous garde et que sa grâce surabonde dans votre vie.